Mastercard World Elite, la carte prestige de Banque Atlantique qui vous donne accès à plus de 1000 salons d'aéroports LoungeKey et à des offres exclusives, vous propose Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Chantal Leroux.
Bonjour, bienvenue dans Appel sur l'actualité. Comment contrôler les naissances dans le pays au taux de fécondité le plus élevé au monde, 7 enfants par femme en moyenne? Le Niger a décidé pour cela de lutter contre les mariages précoces et la déscolarisation des filles via un nouvel organe, l'Office nigérien de la population. Que pensez-vous de cette stratégie? Comment surmonter les obstacles culturels et religieux? Une démographie maîtrisée favorise-t-elle le développement? On lance le débat. Dans une demi-heure, vous pouvez encore nous appeler au 33 9 693 693 70. Mais d'abord, vos questions à la rédaction de RFI. L'ancien Premier ministre français, François Fillon, a été condamné en appel à 4 ans de prison, dont un ferme, dans le dossier des emplois fictifs de son épouse Pénélope. Trésor, bonjour.
Bonjour, Madame Chantal Leroux.
Vous nous appelez de Kinshasa en RDC. À mes côtés en studio, Marine de la Moissonnière du service France de RFI. Bonjour Marine.
Bonjour Chantal, bonjour Trésor.
Trésor, vous pouvez poser vos questions à Marine.
Oui, j'aimerais savoir pourquoi la condamnation est plus légère qu'en première instance pour François Fillon. Et est-ce que l'ancien Premier ministre va vraiment aller en prison ?
Alors Marine, pourquoi la condamnation de François Fillon est-elle plus légère en appel qu'en première instance?
Alors elle est un peu plus légère en effet, hein, puisqu'il a écopé de 4 ans de prison, dont un ferme, vous l'avez dit Chantal, alors qu'en première instance, il avait été condamné à 5 ans de prison, dont 2 fermes. En revanche, ce qui ne change pas, hein, c'est l'amende, 375 000 euros, et puis la peine d'inéligibilité, 10 ans. Il a été, François Fillon, il a été à nouveau reconnu coupable de détournement de fonds publics, complicité et recel d'abus de biens sociaux, mais seulement en ce qui concerne 2 des 3 contrats d'assistante parlementaire de Pénélope Fillon qui posaient problème. Et c'est pour ça, du coup, que la peine est plus légère. C'est parce qu'il y a un des contrats qui a été écarté, le plus vieux, celui qui concerne la période 1998-2002. Donc pour ce contrat, le couple a été relaxé au bénéfice du doute. Pourquoi ? Eh bien parce que la Cour a estimé que les faits étaient tellement anciens. On parle de faits qui se sont passés il y a plus de 20 ans. Donc tellement anciens que c'est possible qu'aujourd'hui, on ne retrouve pas ou peu de preuves, de traces matérielles du travail effectué par Pénélope Fillon, d'autant que son excuse à elle, eh bien, c'est qu'elle écrivait à la main sur des feuilles que son mari a déchirées ensuite.
Alors, est-ce que l'ancien Premier ministre va vraiment aller en prison ?
Alors non, pas pour l'instant, en tout cas, parce qu'il s'est pourvu en cassation, et du coup, le temps que ce recours soit examiné, eh bien, les peines sont suspendues. Alors, vous allez me dire, bah, il s'est pourvu en cassation pour échapper à la prison. Eh bien non, même pas, hein, parce que sans ce pourvoi en cassation, il n'aurait de toute façon pas été en prison car la peine, eh bien, elle est aménageable. Ça veut dire qu'il aurait sans doute purgé cette peine chez lui avec un bracelet électronique.
Parce que quand on est condamné à une peine inférieure à un an,
oui,
on ne va pas en prison.
Ou deux ans, ça dépend des cas. Il faut que dans le jugement, ça soit spécifié. Donc ça peut être aménageable, oui.
Trésor, vous avez une dernière question pour Marine.
Oui, ma dernière question est de savoir comment expliquer qu'il n'a pas la même peine que sa femme.
Ah oui, alors ça c'est une bonne question parce que en effet, on estime on pourrait penser qu'ils sont solidaires. Hein. C'est lui qui l'employait, c'est elle qui travaillait. Mais dès le départ, en fait, ils n'ont pas été poursuivis exactement pour la même chose. Donc, ils n'encouraient pas les mêmes peines, en particulier sur le détournement de fonds publics. Hein. Pénélope Fillon, elle a été reconnue coupable que de complicité de ce délit, contrairement à François Fillon. Alors pour la justice, en tant qu'élu de la République, qui avait accès au fond, bah, c'est lui qui était à la manœuvre, un peu lui l'instigateur du délit, on va dire. Lui donc qui doit être davantage puni, d'autant qu'il était député, c'était donc un homme politique et en tant qu'homme politique élu, il a un devoir d'exemplarité.
Merci beaucoup Marine de la Moissonnière pour ces explications. À bientôt sur l'antenne. Trésor, bonne journée à Kinshasa. On part maintenant pour le Sénégal. Abdoullah, bonjour.
Bonjour Chantal.
Vous êtes comorien et étudiant à Dakar, d'où vous nous appelez. En ligne également avec nous Charlotte Hydrac, bonjour.
Oui, bonjour et mes excuses aux auditeurs d'ailleurs de Dakar. On a un problème d'émetteur et de diffusion là donc sur la FM depuis ce matin. On espère que ça va se régler rapidement.
Eh bien, on l'espère aussi. Vous êtes la correspondante de RFI donc à Dakar. Abdoula, on vous écoute.
Oui, au Sénégal, un nouveau-né est décédé suite à une erreur de diagnostic. Il avait été amené à la morgue alors qu'il était toujours vivant. Cet événement survient peu après le décès d'Astou Sokna, tandis qu'elle a accouché dans un hôpital du nord du Sénégal. Comment expliquer la récurrence de ces tragédies ?
Charlotte, le bébé prénommé Diaria Kaolack, la mort en couche d'Astou Sokna à Louga, ce sont des tragédies qui ont suscité beaucoup d'émotions, beaucoup d'indignation coup sur coup.
Oui, alors Abdoula, en fait, c'est pas forcément qu'il y en a plus de tragédies de ce genre. Ce qui est sûr, c'est qu'on en parle plus. Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu d'autres affaires dramatiques récemment. Hein, par exemple, des bébés qui avaient été retrouvés morts calcinés dans la ville de Linger, ou encore un cas similaire dans la réputée clinique de la Madeleine à Dakar. Et là, cette affaire donc du bébé d'Astou Sokna avant, ça a été des tragédies de plus, des tragédies de trop. Largement médiatisé. C'est vrai que ça a libéré la parole sur les réseaux sociaux. Alors, ça fait dire à certains personnels de santé qu'ils se retrouvent face à une vindicte populaire, entre guillemets. Mais c'est vrai, de fait, quand on en parle ici dans les familles, le fonctionnement du système de santé, c'est vraiment un sujet de préoccupation et chacun ou presque a une histoire à raconter. Alors, parmi les facteurs d'explication, certains avancent le manque de moyens pour le décès d'Astou Sokna, par exemple, au procès à Louga la semaine dernière. Les avocats, les collègues ont souvent parlé, mis en avant le fait que les sages-femmes poursuivies, eh bien, elles étaient en train de courir partout entre les patientes à la maternité. Elles avaient des horaires infernaux de 9h à 22h. Elles étaient mal payées avec des salaires de moins de 200 000 francs CFA par mois. Bref, qu'elles ne pouvaient pas être au chevet d'une patiente en permanence. Donc voilà, les moyens. Ce qui revient aussi, ce sont des questions sur la formation et pas sur le plan technique, mais plutôt sur ce qu'on pourrait appeler l'humanisation des soins, donc l'accueil, la prise en charge. Par exemple, après l'affaire Astou Sokna, il y a une jeune maman qui me racontait à la maternité que le personnel lui avait crié dessus, qui lui disait d'arrêter de se plaindre. Donc voilà, les avocats de la partie civile là au procès de Louga ont vraiment insisté sur un nécessaire changement de comportement. Et puis troisième point, et c'est peut-être le plus important, c'est celui de l'organisation, la chaîne de responsabilité. Là, par exemple, dans le drame du bébé de Kaolack, c'est l'infirmière qui a fait un certificat de décès alors que l'enfant était toujours en vie et c'était pas à elle de le faire. Dans l'affaire Astou Sokna, sa famille affirme qu'elle a appelé à l'aide pendant des heures et là chacun se renvoie la balle. Donc un enchaînement de dysfonctionnements dans le respect des protocoles et qui finalement peut conduire au pire.
Abdoula, vous avez une dernière question pour Charlotte Hydrak.
Oui. Que prévoient les autorités sénégalaises pour prévenir ce drame à l'avenir ?
Charlotte.
Oui, elles ont été interpellées pour ce qui est du bébé de Kaolack, la directrice de l'hôpital. Elle a parlé d'une affaire déplorable. Elle a promis des efforts pour que ça se reproduise plus. Notamment, elle a assuré que des cycles de formation étaient organisés dans l'hôpital depuis le début de l'année, justement sur l'accueil, sur l'orientation des patients et sur la bonne conduite du personnel. Sur l'affaire Astou Sokna, là, le ministre s'est plusieurs fois exprimé. Tout en parlant d'un décès évitable, il a parlé à des augmentations de budget, il a parlé de nouvelles infrastructures dans les régions, donc ça c'est pour la question des moyens, mais il a reconnu qu'il y avait des progrès à faire, et là encore notamment sur l'accueil dans les structures de santé. Donc des promesses pour faire plus, pour faire mieux, et en parallèle, plus d'attentes de la part des patients, beaucoup plus de vigilance et des poursuites judiciaires, malgré une tradition ici de ce qu'on appelle la soutoura, c'est la discrétion, on en parle pas. Donc ça, manifestement, pour les patients, eh bien, ça évolue. Et d'ailleurs, les avocats le disaient au procès de Louga la semaine dernière, ils attendent un jugement pour l'exemple, un jugement des sages-femmes, qui est attendu là d'ailleurs ce mercredi, tout à l'heure dans la matinée. On y reviendra.
Merci beaucoup Charlotte Hydrak pour ces explications et on vous retrouve tout à l'heure dès qu'on connaîtra le jugement dans l'affaire Astou Sokna. Abdoula, j'espère que vous êtes satisfait. Bonne journée à Dakar. La liberté des femmes se réduit comme peau de chagrin depuis le retour des talibans au pouvoir en août dernier. Les Afghanes doivent désormais porter en public le voile interdit intégrale pour éviter la provocation. Et si elles n'ont pas d'importantes tâches à effectuer à l'extérieur, il est mieux pour elles de rester à la maison, précise le décret publié samedi dernier et signé par le chef suprême des talibans. Souleymane, bonjour.
Bonjour Chantal, également à notre invité et à tous les auditeurs de la RFI.
Vous nous appelez de Conakry en Guinée. En ligne également avec nous, Firouzé Nahavandi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'Université libre de Bruxelles, spécialiste de l'Afghanistan et vous avez publié « Afghanistan » aux éditions de Buck. Souleymane, vous avez la parole.
En Afghanistan, les talibans viennent d'imposer le port du voile obligatoire pour les femmes dans l'espace public. Ainsi, ma question est de savoir comment expliquer de telles restrictions alors que les talibans avaient promis un régime plus souple. Peut-on craindre un retour au régime particulièrement sévère d'il y a 20 ans pour les femmes?
Alors Firouzé Nahavandi, est-ce qu'on s'est clairement trompé en pensant que les talibans avaient changé depuis 2001 et que peut-être ils se montreraient plus respectueux des droits des femmes?
Je pense qu'on a voulu croire que les talibans avaient changé parce que cela arrangeait finalement tout le monde et que le départ des Américains, même s'il faisait craindre le pire, on essayait d'avoir de l'espoir. Néanmoins, je pense que dès le départ, c'était une croyance qui était fausse. Dans la mesure où, tout d'abord, pour répondre à la question, avant que les Américains ne quittent l'Afghanistan, il y avait eu l'accord de Doha avec les talibans et cet accord portait plus sur l'arrêt du terrorisme ou le non-soutien des actes terroristes plutôt que sur le droit des femmes. En fait, quand on parlait des droits des femmes, respecter les droits des femmes dans l'accord de Doha, eh bien, c'était très flou parce que tout dépend de ce que l'on met dans droits des femmes. Et ceci, dès le début, les talibans au pouvoir en août l'ont très très bien marqué, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils ont abordé la question des femmes, ils ont dit oui, nous respectons les droits des femmes, nous allons les respecter, mais, et c'est le mais qui est très important, dans le cadre de l'islam et dans le cadre
de la charia,
de nos traditions culturelles. Donc l'islam, disons la charia, et d'autre part le cadre culturel qui est en fait le cadre pachtoun et tout ce qui est en rapport avec les traditions pachtoun, c'est-à-dire les traditions de l'ethnie majoritaire en Afghanistan. Or, lorsque l'on fait référence à la tradition et à toutes les références des talibans, on voit bien que ce sont des traditions extrêmement traditionnelles, fondamentalistes, puisque les talibans se réfèrent d'une part un courant que l'on appelle donc, qui est le courant Deobandi, qui est vraiment le courant puritain qui est né au 19e siècle dans le sous-continent indien, en Inde du Nord plus particulièrement, mélangé à du wahhabisme, donc courant aussi très conservateur et puritain vient de l'Arabie Saoudite, et les talibans insistent énormément sur l'imitation du prophète, à savoir donc que leur idéologie est déjà très 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 traditionnaliste.
Oui, allez-y, terminez, Firouzé.
Et à cela, il faut ajouter les traditions pachtounes à propos des femmes qui sont extrêmement machistes et qui ne donnent vraiment pas de place aux femmes dans la vie quotidienne. Donc ce mélange va donner quelque chose d'explosif finalement pour ce qui est du droit moderne et des droits des femmes. Cela étant, dès le départ, il y a également des signes visibles de ce que les talibans pensent des femmes, par exemple, lors des grandes fuites à travers l'aéroport de Kaboul, les talibans ont empêché les femmes seules d'atteindre l'aéroport. Ensuite, ils ont mis en place un ministère du vice et de la vertu qui est susceptible et qui a comme tâche principale de contrôler le comportement des Afghans, mais des Afghanes également. Et puis si on ajoute à cela la lutte interne aux talibans entre des individus plus modernes, disons, et les plus restrictifs, eh bien on voit qu'aujourd'hui que c'est l'aile la plus radicale qui a gagné. Et donc,
merci.
On ne doit pas s'étonner de la suite des choses.
Merci beaucoup, Firouzena Avanti, d'avoir été avec nous. Souleymane, merci de nous avoir appelés. Bonne journée à tous les deux. On termine cette première partie d'appel sur l'actualité avec la nouvelle sensation du tennis mondial, Carlos Alcaraz. Classé 120e joueur mondial il y a un an, l'Espagnol occupe aujourd'hui la 6e place du classement. Messi Fidel, bonjour.
Bonjour Chantal, bonjour à tous.
Vous nous appelez de Lubumbashi en RDC. À mes côtés, en studio, Antoine Grenier du service des sports de RFI. Bonjour Antoine.
Bonjour Chantal.
Messi Fidel, vous avez la parole.
Bonjour Antoine.
Bonjour Messi.
À 19 ans, Carlos Alcaraz a remporté son deuxième Masters 1000, battant Rafael Nadal, Novak Djokovic et Alexander Zverev. À ces propos, j'ai des questions, Antoine. La première est celle de savoir qu'est-ce qui a fait sa force pour remporter de telles victoires face à trois joueurs du top 4.
Alors Antoine, on a l'impression que Alcaraz est invincible.
Oui, pour ceux qui suivent un petit peu le tennis, c'est pas forcément une surprise. On le voit monter depuis quelques années, Alcaraz. Ces derniers mois, c'est plus une confirmation. Premier quart de finale d'un tournoi majeur à l'US Open en septembre dernier. Premier Masters 1000 à Miami début avril. Et puis, ce doublé Barcelone Masters 1000 de Madrid. 10 matchs remportés d'affilée, le tout à simplement 19 ans. Cette montée en puissance, elle s'explique tout simplement par ses qualités. Il a un mental absolument invraisemblable, une confiance en lui qui lui fait dire qu'il n'a aucune limite. Ça l'aide dans les situations compliquées, comme en demi-finale du tournoi de Barcelone, où il a sauvé deux balles de match contre Alex de Minaur. Il s'appuie aussi sur une grande maturité dans son jeu. Il n'a pas vraiment de points faibles. Son coup droit est très puissant. Il a un bon revers, un bon service.
On parle de service kické. Qu'est-ce que c'est, le service kické?
Le service kické, c'est une manière de frapper la balle qui est assez particulière et qui est très, très perturbante pour l'adversaire, parce que la balle va s'accélérer juste après le rebond. C'est assez particulier, ça l'aide à maîtriser par exemple un geste qui est techniquement extrêmement difficile, qui est le service volé. Il en a fait énormément en finale du tournoi de Madrid contre Alexander Zverev, et on a vu que ça l'avait rendu fou, l'Allemand. Tout comme les amortis, il maîtrise parfaitement, il a une capacité à faire des amortis et donc à casser le rythme et à faire courir son adversaire, qui empêche le joueur qui est en face de lui de pouvoir établir un vrai plan de jeu, parce qu'on ne sait jamais vraiment ce qu'il va faire, Alcaraz. Et puis la terre battue sur laquelle il a donc remporté ce tournoi de Madrid, c'est un de ses points forts avec le dur, une de ses surfaces de prédilection. De quoi alimenter un petit peu les comparaisons avec un autre Espagnol brillant et qui a réussi très jeune, en l'occurrence Rafael Nadal. Nadal que effectivement Alcaraz a battu à Madrid, avec un petit peu de chance quand même, parce que l'ancien numéro 1 mondial sortait d'un match de 3h09 contre le Belge David Goffin, donc il était un peu fatigué.
Mais si vous avez une autre question à poser à Antoine.
Exactement. En fait, Antoine, quelles sont ses chances pour Roland-Garros qui commence dans pratiquement des semaines?
Alors, est-ce qu'il part? Oui, il part parmi les favoris pour Roland-Garros.
Il part forcément
Alcaraz
parmi les favoris. Il est très bien classé à l'ATP. Il est en forme, mais bon, c'est quand même compliqué de l'imaginer gagner cette année quand on voit que Rafael Nadal revient. Alors, quel sera l'état de forme de l'Espagnol qui en a gagné 13 des matchs des Roland-Garros depuis 2005? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Alcaraz, maintenant, il a des références. Il est épaulé depuis qu'il a 15 ans par Juan Carlos Ferrero, ancien numéro 1 mondial, ancien vainqueur de Roland-Garros, donc qui va pouvoir lui apporter sa science du tennis de la terre battue, et puis ce petit plus dans l'approche de tel rendez-vous. Puis Alcaraz, il a aussi une revanche à prendre sur le public parisien, parce qu'on se souvient qu'à Bercy l'hiver dernier, il avait mal vécu, il avait craqué à cause des spectateurs qui avaient bruyamment soutenu son adversaire Hugo Gaston, un Français. Il a appris de cet épisode, assure-t-il. Donc quand on sait à quel point il apprend vite, Alcaraz, on peut se dire qu'il sera prêt. Il fera partie des joueurs qui peuvent gagner Roland-Garros. La marche est haute, mais le potentiel est là.
Merci beaucoup Antoine Grenier pour ces précisions. Merci Messi Fidèle, ben merci de nous avoir appelé. Bonne journée à Lubumbashi. Dans quelques instants, le retour de l'info sur RFI.